grâce et de la plénitude de grâce du Christ, et d'autre part, il y a le point de vue de la rédemption. Les deux choses se tiennent. Le gouvernement du Christ a comme caractère particulier d'être le gouvernement de celui qui nous a sauvés. Donc, du sacerdoce, du Fils bien-aimé, qui nous sauve. C'est ça ce qui caractérise le gouvernement du Christ. Le gouvernement divin comme tel, c'est Dieu créateur et qui nous prédestine par le Christ. Le mystère de la rédemption est une recréation, donc une reprise radicale de tout à travers le sacerdoce de Jésus. Sacerdoce du Fils bien-aimé, qui a toute l'autorité du Père. Donc c'est vraiment le mystère du sacerdoce qui caractérise ce gouvernement. Exactement comme l'Église. Le gouvernement de l'Église est un gouvernement sacerdotal. Doublement sacerdotal. Sacerdotal au point de vue sacrement, hiérarchique. C'est par la hiérarchie que l'Église gouverne, c'est le pape. En tant que prêtre, en tant qu'évêque, mais en tant que prêtre. Donc c'est un gouvernement sacerdotal et sacramentel pour l'Église. Et l'Église gouverne vers la sainteté ceux qui sont des membres du Christ au point de vue du sacerdoce royal des fidèles. Donc c'est pour ça que je dirais qu'il y a les deux aspects du sacerdoce qui se trouvent dans l'Église et qui se retrouvent dans le Christ comme tête. Donc, on peut dire que le caractère propre du gouvernement du Christ auprès de nous, c'est vraiment le point de vue sacerdotal. En comprenant que ce point de vue sacerdotal du Fils bien-aimé, c'est celui qui nous sauve. C'est pour ça que ce gouvernement est radical et qui reprend tout, et que tout est repris dans ce gouvernement. Ce n'est pas simplement un gouvernement, si vous voulez, comme d'habitude. Le gouvernement regarde uniquement le conditionnement et regarde uniquement le devenir. Là, c'est un gouvernement qui regarde notre naissance à la vie divine. Et c'est pour ça qu'il est substantiel. C'est la communication de la grâce et c'est le don de la grâce. Je ne dis pas plus, puisque... Si on voulait entrer dedans, on serait dans des perspectives. Mais c'est très bien de se le poser, mais je crois qu'on peut le résoudre qu'après le mystère de la rédemption. Le gouvernement du Christ est lié au mystère de la rédemption. Il a un fondement dans le point de vue du mystère de l'incarnation. Alors nous allons entrer maintenant tout de suite dans la question 9 de la science du Christ, qui est une question très importante chez saint Thomas. Ceux qui connaissent bien saint Thomas savent bien que c'est un des aspects très caractéristiques de la théologie de saint Thomas, d'avoir développé d'une façon très particulière le point de vue de la connaissance. C'est dans ce sens qu'on dit toujours que saint Thomas est un intellectuel, vous voyez ? Ce qui est faux, parce que saint Thomas développe la connaissance en vue de l'amour. Mais c'est très vrai, saint Thomas est très sensible à cela. Il a pris ça à Aristote, que les degrés de science se prennent du côté de la connaissance. Et c'est cet aspect-là que saint Thomas développe, c'est que la connaissance nous donne toujours l'aspect substantiel des choses, et donc les degrés de vie. Tandis que l'amour nous donne le point de vue final. L'amour ne structure pas, c'est la connaissance qui structure. Parce que la connaissance est toujours le côté de la spécification, tandis que l'amour c'est le côté de la finalité. Ça c'est très important de bien saisir, parce que ça nous aide à comprendre alors la place de la science dans ce traité du Christ. C'est le nœud. Et on a essayé de comprendre l'union hypostatique. Eh bien, ce qui est très important après l'union hypostatique, je crois que c'est les deux grands axes qui nous aident à comprendre. L'union hypostatique, c'est au niveau de l'être, tandis qu'au contraire, le point de vue de la science, c'est du côté de la vie. Et on va essayer de découvrir quels sont les degrés de vie dans le Christ par ces différents degrés de science, tout en reconnaissant qu'il n'y a qu'une seule vie dans le Christ, la vie humano-divine. C'est la vie propre de Jésus. Il nous faut maintenant considérer la science du Christ. Notre recherche comportera d'abord l'étude générale de cette science, puis l'étude particulière de chacune des sciences possédées par le Christ. Et vous voyez, c'est aussi très caractéristique de la théologie scientifique. Une théologie mystique ne parlerait pas de tout ça. Et une théologie plus descriptive, comme une théologie plus phénoménologique, ne parlerait pas non plus de cela. C'est très typique d'une théologie scientifique. Sur le premier point, nous poserons les questions suivantes. Le Christ a-t-il possédé une science autre que la connaissance proprement divine ? A-t-il possédé la science des bienheureux ? A-t-il possédé la science infuse ? A-t-il possédé quelque science acquise ? Vous êtes arrivé à l'article 1er, je crois. Vous l'avez déjà vu. Dites-moi, où est-ce qu'on en était ? Hein ? On avait vu l'article 1er ? Ce qui me semble. Quoi ? Commencer, c'est ce qui me semblait. On avait commencé incoativement et puis que c'était. Alors le cœur battait entre les deux, n'est-ce pas ? Savoir s'il fallait le reprendre ou pas. Alors on le reprend pour vous remettre dedans. Le Christ a-t-il possédé une science autre que la connaissance proprement divine ? Donc essayez de comprendre qu'il n'y a pas. Que la science divine étant le soleil, permet cependant à la lune d'exister. Simultanément, n'est-ce pas ? Parce que c'est ça, enfin, la grande objection, si vous avez une science aussi parfaite que la science divine, pas besoin de petite science à côté. Ça, c'est la grosse objection, l'objection massive. Ce qui est vrai du côté de l'amour et ce qui n'est pas vrai du côté de la science, c'est la très grosse différence. Alors, le corps de l'article, saint Ambroise écrit « Dieu a assumé dans la chair la perfection de la nature humaine. Il a pris le sens de l'homme, mais non le sens orgueilleux de la chair. Or, la science créée appartient au sens de l'homme. Il y eut donc dans le Christ une science créée. » C'est amusant comme raisonnement, hein ? Vous voyez bien. Le corps de l'article, comme nous l'avons déjà noté, le Fils de l'homme a pris une nature humaine complète, non seulement avec un corps, mais aussi avec une âme sensible et rationnelle. Il devait donc posséder une science créée pour trois motifs. D'abord, pour la perfection de son âme. L'âme, en effet, considérée en elle-même, est en puissance à tous les intelligibles. Elle est comme un tableau sur lequel rien ne se trouve écrit, tabula rasa, mais où l'on peut écrire, car par l'intellect possible, elle peut devenir toute chose, ainsi que le remarque Aristote. Donc on assume ici le de anima, dans une vision de sagesse. Or, ce qui est en puissance est imparfait, tant qu'il n'est pas réduit à l'acte. D'autre part, il ne convient pas que le Fils de Dieu assumât une nature humaine imparfaite, puisque par son intermédiaire, il doit conduire tout le genre humain à la perfection. Il fallait donc que l'âme du Christ fût enrichie d'une science qui constitua sa perfection propre et par suite d'une science distincte de la science proprement divine. Autrement, l'âme du Christ serait plus imparfaite que les âmes des autres hommes. Donc ça, c'est la première raison. En second lieu, étant donné que toute chose existe en vue de son opération, comme le dit Aristote, c'est en vain que le Christ aurait une âme intellectuelle s'il ne pouvait faire acte d'intelligence. Or, ceci suppose une science créée. Second argument qui montre le point de vue de la finalité nécessaire au point de vue de l'âme spirituelle. Avoir une âme spirituelle et ne jamais poser un acte d'intelligence, c'est que cette âme alors demeure vaine, puisqu'elle n'atteint pas sa fin. Enfin, il y a une science créée qui est naturelle à l'âme humaine. C'est celle par laquelle nous connaissons les premiers principes. Nous prenons en effet ici le mot « science » en un sens large pour toute connaissance de l'intellect humain, d'intelligence humaine. Mais rien de ce qui est naturel ne pouvait faire défaut au Christ. puisqu'il avait assumé toute la nature humaine, ainsi qu'il a été dit. C'est pourquoi le sixième concile de Constantinople a condamné la doctrine de ceux qui nient que dans le Christ il y ait eu deux sciences ou deux sagesses. Vous voyez, les raisons de saint Thomas sont assez simples à comprendre. C'est que le mystère de l'incarnation assume une nature parfaite, une nature humaine parfaite. S'il n'y a pas la connaissance, il n'y a pas une nature humaine parfaite. Deuxième raison, c'est la raison la plus forte, celle-là, c'est la plus proche de la foi. Donc c'est celle qui est la plus parfaite. C'est qu'il assume une nature humaine parfaite pour sauver l'homme. L'homme n'est parfait que dans le Christ. Et le Christ est le modèle de tous les membres. S'il n'y avait pas une science créée, la nature humaine dans le Christ ne serait pas parfaite. Et donc le Christ ne pourrait pas être le modèle, le premier inter pares. Il ne pourrait pas être le premier parmi tous les frères, parmi tous ses frères. Il faut qu'il soit premier modèle, cause exemplaire de tous les autres. Et il ne peut pas être cause exemplaire s'il n'y a pas de fait cette nature, cette connaissance. Là, vous pouvez le prendre des deux manières, comme il le prend ici, des deux raisons, mais en réalité, les deux raisons se tiennent, et c'est toujours la même chose, c'est qu'il faut que le mystère de l'incarnation assume une nature humaine parfaite. La seconde raison, c'est que dans le mystère de l'incarnation, rien ne doit être vain. Assumer la nature humaine sans que sa nature humaine atteigne sa propre fin, ce serait vain. C'est très beau comme argument, parce que ce serait un argument qui serait un tout petit peu analogue entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel au point de vue de la théologie et de la philosophie. Quelquefois, on se demande pourquoi faire de la philosophie, hein ? C'est pour que votre intelligence ne soit pas vaine. Hein ? C'est un bon argument, ça. Parce qu'autrement, vous seriez intelligent, mais vous ne passeriez jamais à l'acte. Ce serait très ennuyeux. Et là, c'est pour que votre intelligence ne soit pas vaine. Vanum. Parce que c'est celui qui ne passe pas à l'acte. Alors c'est le même raisonnement, vous voyez. Parce que le supérieur ne supprime pas l'inférieur. Principe de subsidiarité. Le supérieur ne supprime pas l'inférieur. Il respecte dans son ordre particulier ce que représente celui-là. Et donc, dans son opération propre. Autrement, il met en prison. La nature humaine serait dans le Christ en prison si elle ne pouvait pas atteindre sa fin. Parce qu'elle ne pourrait pas avoir son acte propre, et donc sa finalité propre. Enfin, la troisième raison, c'est que de fait, elle se touche, hein, c'est la troisième raison, c'est le point de vue naturel. Et le point de vue naturel, ce qui est naturel dans l'homme, c'est justement la connaissance. Vous voyez, alors les deux raisons se touchent assez fortement. Vous voyez la différence, c'est que la deuxième raison, c'est la cause finale, la seconde raison, la troisième raison, c'est la cause efficiente. Je crois qu'on peut dire ça. Ça n'offre pas beaucoup de difficultés. Mais c'est très important. C'est très important à bien comprendre pour essayer de vivre, de rentrer dans le mystère même de l'incarnation. Première objection. La science est nécessaire pour connaître certaines choses, mais par sa science divine, le Christ connaît toutes choses. Il n'avait donc pas besoin de nos sciences. Le Christ a connu toutes choses dans la science divine par le moyen de l'opération incréée qui est l'essence même de Dieu. L'intellection de Dieu, en effet, est sa propre substance, comme le démontre le philosophe. Cette intellection n'a donc pas... Oui, c'est curieux que saint Thomas renvoie au philosophe, là, alors qu'il pourrait envoyer à la prima pars, au début. C'est très curieux. Nous aurions renvoyé à la prima pars. Et saint Thomas renvoie au philosophe. Cette intellection n'a donc pu être ni acte de l'âme du Christ, puisque cette âme est d'une autre nature. Dès lors, si dans l'âme du Christ il n'y avait eu d'autre science que la science divine, cette âme eût été totalement dépourvue de connaissances. Elle aurait donc été assumée en vain, puisque toute chose existe en vue de son opération. La seconde raison. Alors, pourquoi saint Thomas appelle le philosophe et non pas le début? C'est parce que le début de sa somme, on est en théologie, tandis qu'il fait appel au philosophe, parce que ce que l'intelligence humaine peut le dire, le théologien demande toujours à l'intelligence humaine de le dire. Vous voyez, c'est exactement l'argumentation de l'article que saint Thomas applique. Et c'est peut-être pour ça qu'il est particulièrement attentif à ça. Seconde objection. Une faible lumière disparaît devant une lumière plus éclatante. Or, toute science créée est à la science incréée de Dieu, ce qu'une faible lumière est à la lumière plus éclatante. Toute autre science que la science divine ne saurait donc irradier l'intelligence du Christ. C'est le soleil et la lune. Tout de suite. La pleine lumière, et puis une petite clarté, un petit lampion. Bien évident, quand il y a du soleil, vous ne gardez pas la lampe allumée. Le soleil suffit, il éclaire tout. Possédez d'économie. Vous n'allez pas garder votre petit lampion allumé, petite lampion allumée, quand le soleil est là. Vous l'éteignez. Et si vous ne l'éteignez pas, quelqu'un vient vous dire, mais éteignez ça, ça ne sert à rien. Alors vous voyez l'application, tout de suite. Ça, c'est un principe d'économie. Ce n'est pas le principe d'économie du mystère de l'incarnation. C'est curieux. C'est un principe de finalité. C'est très curieux, ces choses-là. Et on comprend que dans un siècle d'économie, où l'économie remplace la métaphysique, n'est-ce pas ? Alors on comprend qu'on a beaucoup de peine à entrer dans cette surabondance de l'ordre de la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu n'est pas commandée par l'économie. Heureusement, il y aurait beaucoup de chômage. Lorsqu'on a deux lumières de même ordre, la plus faible disparaît devant la plus forte. C'est ainsi que la lumière du soleil fait évanouir celle d'un simple flambeau, parce que l'un et l'autre sont des sources de lumière. Mais si l'on a deux lumières dont l'une est source d'illumination et dont l'autre ne fait que recevoir cette illumination, la première, loin d'affaiblir la seconde, ne fait que l'accroître en proportion de son éclat. Ainsi, la lumière de l'air est augmentée par la lumière du soleil. De même, dans l'âme du Christ, la lumière de la science n'est pas assombrie, mais bien plutôt renforcée par la lumière de la science divine, laquelle est la véritable lumière illuminant tout homme venant en ce monde. Donc, saint Thomas ne répond pas du tout à l'économie. Il répond tout simplement au fait que l'une ne nuit pas à l'autre, et au contraire, réconforte l'autre. Donc il se place dans une perspective d'économie divine et de sagesse, et non pas dans une perspective d'économie humaine. Troisième raison, l'union de la nature humaine à la nature divine s'est faite dans la personne, ainsi qu'il a été dit. Or, d'après certains théologiens, il faut placer dans le Christ une science d'union qui lui fait connaître beaucoup plus parfaitement qu'à tout autre ce qui a rapport au mystère de l'incarnation. Et puisque l'union personnelle comporte deux natures, il semble qu'il ne puisse y avoir dans le Christ deux sciences, mais une seule se référant à l'une et l'autre nature. En se plaçant au point de vue des réalités unies, nous mettons dans le Christ une science se référant à sa nature divine et à sa nature humaine. Et à cause de l'union de l'homme et de Dieu, en une même hypostase, nous attribuons à l'homme ce qui est de Dieu et à Dieu ce qui est de l'homme, ainsi qu'il a été dit plus haut. Mais si on se place au point de vue de l'union elle-même, l'on ne saurait poser dans le Christ une science quelconque, car l'union se rapporte à l'être personnel et la science ne convient à la personne qu'en raison d'une nature donnée. Mais cette réponse plus subtile. Au fond, c'est distinguer l'ordre de la vie et l'ordre de l'être. Du côté de l'être, il y a l'unité. Du côté de la vie, il y a divers degrés. C'est, je crois, ça la grande raison. C'est au fond une raison qui va très loin, celle-là. Alors, vous voyez, si on confond être et vie, on ne peut plus comprendre. Mais si on regarde bien ce que représente la différence entre le point de vue de l'être, alors on dit qu'il y a l'unité profonde dans le Christ en raison du mystère de l'union hypostatique. En raison du mystère de l'union hypostatique, il y a l'unité d'exister. Il y a une unité d'être. Il y a un seul être dans le Christ. Il y a une personne. Et il peut y avoir deux sciences. Remarquez que nous pouvons faire une expérience analogue. Nous pouvons garder notre unité et jouer sur des claviers différents. Nous avons une science théologique, une science philosophique, une science biologique, une science mathématique. Ça ne nuit pas à la science mathématique d'être métaphysicien. Ça nuit quelquefois à la métaphysique d'être mathématicien, mais ça c'est autre chose, c'est un autre domaine. C'est parce que l'habitus mathématique a pris possession d'une façon si forte de l'homme qu'on a une peine énorme de comprendre le « nous séparer ». C'est un phénomène très curieux, ça. Et c'est vrai, ça existe, ça, parce que un habitus premier peut l'emporter sur un habitus qui est acquis après. Mais ça, c'est en raison du conditionnement humain. Mais en soi, ça ne nuit pas, parce que ce sont des domaines différents. Alors, article 2, le Christ a-t-il possédé la science des bienheureux ? Donc, vous voyez, l'article premier est très simple, c'est de montrer que différence entre le domaine de l'être et le domaine de la vie. Et le domaine de la vie implique qu'il y ait dans le Christ diverses connaissances pour que la nature humaine soit parfaite. S'il n'y avait pas de connaissances humaines, la nature humaine serait imparfaite, elle serait vaine. Le mystère de l'incarnation serait vain. Ça va très loin du reste, à y réfléchir là-dessus. Ce qui montre bien que le mystère de l'incarnation, c'est pour la communication de la vérité à tous les niveaux. Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Alors ici, hein, l'article second, c'est le point de vue de la science des bienheureux. Cependant, la science des bienheureux consiste dans la connaissance de Dieu. Or le Christ, même en tant qu'homme, a connu Dieu pleinement. Selon cette parole de saint Jean, je le connais et je garde sa parole. Le Christ possédait donc la science des bienheureux. C'est curieux, le texte de saint Jean, comme inférence. C'est évident que c'est assez particulier. Au point de vue exégétique, ça ne porterait pas. Scio eum et sermonem eius servo. Donc saint Jean 8, 55. Voici l'argumentation. Ce qui est en puissance ne peut être réduit à l'acte que par ce qui est déjà en acte. Mais il faut qu'un corps soit chaud pour chauffer les autres corps. Or, l'homme est en puissance à la science des bienheureux, qui consiste dans la vision de Dieu. Et il se trouve ordonné à elle comme à sa fin, créature rationnelle en effet, il est capable de cette connaissance bienheureuse, parce qu'il est l'image de Dieu. D'autre part, les hommes sont conduits à cette fin de la béatitude par l'humanité du Christ. Selon cette parole de l'Épître aux Hébreux, il était digne de celui pour qui et par qui sont toutes choses, qu'après avoir conduit à la gloire un grand nombre de fils, il élève par les souffrances au plus haut degré de perfection l'auteur de leur salut. La connaissance bienheureuse ou vision de Dieu convenait donc souverainement au Christ homme, puisque la cause est toujours plus parfaite que son effet. Alors vous voyez comment saint Thomas montre comment cette science bienheureuse est nécessaire à l'âme du Christ. Que nécessairement, l'âme du Christ avait la science bienheureuse. C'est très important, c'est une des choses, vous savez bien qu'aujourd'hui on refuse, beaucoup de théologiens refusent ça, et refusent ça parce qu'ils veulent mettre dans le Christ la foi. Alors ils refusent cette science bienheureuse, parce que s'il y a la science bienheureuse, il ne peut pas y avoir la foi. Or, pour eux, c'est nécessaire qu'il y ait la foi pour que Jésus soit plus proche de nous. Vous voyez, confusion entre le conditionnement et la finalité. On est plus proche d'un autre par la finalité, pas par le conditionnement. C'est un fait constant. Le conditionnement nous gêne plutôt. Ôte-toi de là que je m'y mette. Hein. C'est ça. C'est ça le conditionnement. Tandis qu'on ne dit jamais ça au point de vue de la finalité. Si tu atteins sa fin, mais je suis aussi là. Ça ne fait pas nombre. Tandis qu'au niveau du conditionnement, ça fait nombre. Alors, c'est intéressant de voir comment saint Thomas, en tant que théologien de son temps, affirme ce point de vue de la science bienheureuse. L'homme est en puissance à la science des bienheureux, qui consiste dans la vision de Dieu. Personne ne peut refuser ça au niveau de la foi. Majeure, elle est souveraine. Vous ne pouvez pas nier ça. Vous ne pouvez pas nier que l'homme est en puissance à la science des bienheureux, qui consiste dans la vision de Dieu. Il se trouve ordonné à elle comme à sa fin. Capax Dei. Et non seulement capax Dei, mais ordonné à cette fin qui est la vision béatifique. Il se trouve ordonné à elle comme à sa fin. Créature rationnelle, en effet, il est capable de cette connaissance bienheureuse. Parce qu'il est l'image de Dieu. Capax als illius beate cognitionis in quantum es imago Dei. Alors ça, voyez la thèse en question de mémoire sur la capacité de l'intelligence humaine par rapport à l'intelligence de Dieu. Parce que c'est exactement ça que saint Thomas nous montre ici. N'est-ce pas ? J'espère qu'on a la bibliothèque. Alors c'est l'ordre vers le point de vue de la vision béatifique. Saint Thomas donc dit, il y a une capacité capax et imago Dei. C'est très intéressant, ce petit raisonnement. Ici, saint Thomas montre très bien qu'on est dans une vision de foi. Ah, c'est une vision de foi. C'est la vision qu'on a de l'homme. L'homme, créature raisonnable, il est fait pour la vision béatifique. Ça, je ne peux absolument pas récuser ça. La foi est donnée justement pour ça. C'est le propre de la foi. La foi est donnée pour que je comprenne que l'homme est ordonné à la vision béatifique. La foi n'est pas donnée pour autre chose. Elle est donnée en premier lieu pour que je comprenne que je suis ordonné à la vision béatifique. C'est en ce sens-là que la foi montre la finalité propre, la fin propre de l'homme transformé par la grâce. Alors, c'est toute la question de savoir, indépendamment de la foi, si nous pouvons dire la même chose. Hein. Mais ici, c'est très net le point de vue de saint Thomas. Alors vous comprenez que dans cette lumière-là, étant donné que dans le Christ, l'homme est dans un état de perfection, dans le Christ, l'homme est dans un état de perfection. Puisque la nature humaine assumée par le Verbe est dans un état de perfection. Donc, la conclusion est nette. Ça me semble très très net, c'est de montrer que dans c'est que, de fait, la nature humaine assumée par le Verbe est dans un état de perfection. Si elle est dans un état de perfection, elle implique nécessairement le point de vue de la grâce. Alors, le raisonnement de saint Thomas n'est pas directement ça. Ce qui est en puissance ne peut être réduit à l'acte que parce qu'il est déjà en acte. Ainsi, il faut qu'un corps soit chauffé. Alors, c'est là où saint Thomas dit « La connaissance bienheureuse ou vision de Dieu convenait donc souverainement au Christ homme, puisque la cause est toujours plus parfaite que son effet. » Donc, il regarde la fonction propre du Christ au point de vue de sa royauté par rapport à tous les hommes. Vous voyez ? Je crois qu'il y a les deux arguments. Hein. Les deux arguments. Je peux regarder ici l'homme parfait. L'homme est ordonné à la vision béatifique. Donc, il n'est parfait que s'il a atteint sa fin. Tant qu'il n'a pas atteint sa fin, il est en puissance. À la vision béatifique. Donc, tant qu'il n'a pas atteint la vision béatifique, il est en puissance. Or, l'homme dans le Christ est dans un état de perfection. Donc, il a atteint sa fin. Deuxièmement, Jésus, comme homme, est celui qui est cause exemplaire de toute l'humanité. Il montre à l'homme où il doit aller. Donc, s'il joue ce rôle de tête à l'égard de tous les hommes, il faut qu'il ait atteint sa fin. C'est, je crois, l'autre aspect. Les deux se tiennent, hein, c'est sûr. Mais c'est ce second aspect que saint Thomas prend. C'est le point de vue de la causalité. Hein. Vous voyez, c'est le raisonnement « Ce qui est en puissance ne peut être réduit à l'acte que parce qu'il est déjà en acte. Ainsi, il faut qu'un corps soit chaud pour chauffer les autres corps. Il faut que l'intelligence humaine du Christ soit chaude de la vision béatifique pour chauffer nos pauvres intelligences et les conduire à la vision béatifique. Hein ? Symboliquement, c'est ça. C'est bien ça que saint Thomas dit. Il montre le symbolisme de la chose. Hein ? C'est le point de vue que le Christ, il était digne de celui pour qui et par qui sont toutes choses, qu'après avoir conduit à la gloire un grand nombre de fils, il éleva par les souffrances au plus haut degré de perfection l'auteur de leur salut. L'auteur de leur salut. Donc c'est le Christ, en tant qu'auteur du salut, réclame d'avoir la vision béatifique. Et il est auteur de notre salut par le mystère de la rédemption. Mais je peux aussi prendre le raisonnement de la perfection de l'humanité dans le Christ. Alors, voyons tout de suite la réponse aux objections. La science des bienheureux est une participation de la nature de la lumière divine. Selon cette parole du psaume, « Dans ta lumière, nous verrons la lumière ». Mais le Christ n'a pas eu la lumière divine en participation, puisque la divinité demeurait en lui substantiellement. Nous lisons en effet dans l'Épître aux Colossiens, « Toute la plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. » Le Christ n'a donc pas eu la science des bienheureux. Il a eu plus. Il a plus. Réponse. La divinité est unie à l'humanité du Christ, selon la personne, et non selon la nature, en sorte que, dans l'unité de personne, les deux natures restent distinctes. Dès lors, l'âme du Christ, qui fait partie de sa nature humaine, pouvait, par une lumière participée de la nature divine, être élevée à la science des bienheureux et voir Dieu en son essence. L'objection consistait à montrer que c'était impossible. La réponse montre que c'est possible. Mais la réponse ne dit pas que c'est là. Vous voyez, la différence avec le corps de l'article. Le corps de l'article dit qu'on ne peut pas rester dans cet état de capacité vis-à-vis de la vision béatifique, c'est-à-dire en puissance. Il faut que ce soit en acte. Il faut qu'il soit en acte parce qu'il est l'auteur du salut. Et la possibilité se prend tout simplement que la nature humaine et la nature divine sont unies dans la personne. Ils ne sont pas unis au niveau de la nature. Et donc la nature humaine est parfaitement assumée par le Verbe dans tout ce qu'elle a de propre. Alors, seconde objection. La science des bienheureux fait leur béatitude. Selon ce qui est écrit dans saint Jean, la vie éternelle et qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais le Christ homme fut bien heureux par le fait même de son union personnelle à Dieu. Selon cette parole du psaume, bienheureux celui que tu as choisi et que tu as assumé. Il n'y a donc pas lieu de placer dans le Christ la science des bienheureux. Alors, réponse. Par l'union, cet homme qui est le Christ est bienheureux de la béatitude incréée, tout aussi bien que par l'union il est Dieu. Mais en dehors de la béatitude incréée, il faut que la nature humaine du Christ possède une béatitude créée qui lui permette d'atteindre sa fin dernière. Vous voyez que c'est intéressant. In ultimo fine, et dans le corps de la crise, dans le corps de l'article, c'est la fin propre. Non.
Qu'est-ce qu'on invoque comme raison ?
Parce que la science, bien, la connaissance de vision béatifique, c'est évident qu'il a la connaissance de Dieu, la connaissance de vision béatifique. Et il l'a aussi par la science infuse. Okay. La science infuse, c'est plus la communication. La science bienheureuse, la vision béatifique ne peut pas se communiquer. Vous êtes entièrement clôturé en Dieu. C'est la clôture papale. Hein. Vous êtes entièrement clôturé. La vision béatifique ne se communique pas. Tandis que la science infuse permet la communication. C'est le rapt. Il y a un rapt par la vision béatifique. Et vous êtes projeté en Dieu dans la connaissance. Vous ne pouvez communiquer. Vous ne pouvez pas communiquer. La vision béatifique ne se communique pas. C'est le silence absolu de Dieu qui envahit notre intelligence. Alors c'est sûr que par là, il a une conscience, mais je n'oserais pas dire conscience, mais il est en Dieu. La science béatifique nous met en Dieu, alors c'est une auto-lucidité absolue de la vision béatifique, mais aucune réflexion dans la vision béatifique. Oui, donc c'est connaître Dieu comme il se connaît. Tandis que la conscience, c'est au niveau de la science infuse. Mais ça ne peut être qu'au niveau de la science infuse, oui. Oui, parce que, à cause de la finalité, la science infuse ne suffit pas à la finalité.
Mais s'il y a une connaissance infuse de la finalité, qui est bien moins parfaite que la
finalité, il est suffisant. Le raisonnement est donné ici, capax dei, ma compagnie, donc la vision béatifique.
Est-ce qu'il est nécessaire que le Christ vive de la vision ?
Oui, parce qu'il est, parce que son humanité est parfaite et parce qu'il est octobre, l'auteur du Seigneur. C'est pas suffisant de savoir.
C'est pas aussi parfait.
Celui qui guide, voyez, celui qui gouverne, gouverne avec une connaissance qui n'est pas une connaissance spéculative, expérimentale, de l'amour. La prudence réclame l'amour. Il faut aimer la fin pour être prudent. J'aurais qu'une connaissance spéculative de la fin, je serais souverainement imprudent. C'est là la différence. Dernière objection. Une double science convient à l'homme, une qui est proportionnée à sa nature, l'autre qui la dépasse. Mais la science des bienheureux, qui consiste dans la divine vision, est au-dessus de la nature humaine. Or, dans le Christ, il y avait une science surnaturelle beaucoup plus élevée, à savoir la science divine elle-même. Il est donc inutile de placer en lui la science des bienheureux. Hein, vous voyez bien, vous êtes dans l'objection 3. Alors, réponse. La vision ou science bienheureuse et d'une certaine manière au-dessus de la nature de l'âme rationnelle, car celle-ci ne peut y parvenir par sa propre vertu. En un autre sens, pourtant, elle est conforme à sa nature. Ça, c'est... alio modo est secundum naturam jus. C'est très très joli pour voir les relations entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. Oui. Quodam modo supra, alio modo secundum. Il faut jongler. Hein. Ça, c'est le jongleur de Notre-Dame. Il hein. faut jongler, la souplesse. Hein, parce que si vous ne prenez pas ça... Et c'est très joliment dit, le quodam modo supra, alio modo secundum. C'est pas contradictoire. Alors c'est évident, dans l'université, si vous êtes dans l'université, vous n'y comprenez plus rien du tout. Alors là, on voit très bien le point de vue de l'analogie. En un autre sens, pourtant, elle est conforme selon sa nature. Car par nature, l'âme est capax dei. Ah. Alors vous avez ici, n'est-ce pas, le point de vue qui a été dit. Per naturam suam est capax eius. Procilicet ad imaginem dei facta est. Mais la science incréée dépasse de toute manière la nature de la nature humaine. Donc vous voyez, c'est bien ce raisonnement-là que saint Thomas donne. Cette capacité à la vision béatifique, parce que imago dei, secundum naturam. Et il ne peut l'atteindre que par la grâce, mais secundum naturam, elle est capable de vivre.
Qu'on est au niveau de la vie, qu'il se sert tant de la finalité de la rédemption comme raison majeure.
Oui, on est tout de suite à finir.
Parce que la nature, une fois que ça ne contredit pas, mais ça,
non, mais c'est dépassé par le point de vue de la rédemption déjà. On est déjà vers là de la finalité, forcément. Oui, oui.
Est-ce que si l'objection de la loi se fait, l'auteur et le Christ seraient proprement l'auteur du salut, ni serait seulement l'astre. S'il avait une connaissance infuse, sans la...
Non, je ne crois pas dire ça, je crois pas, parce que c'est même pas nécessaire, la messe de Balaam n'a pas la science. Instrument, comme un instrument, on n'est pas nécessairement connaître. Comme instrument, il suffit d'être mu par l'Esprit Saint, on ne connaît pas nécessairement.
La
même connaissance de prophétie. Quoi ? Oui, peut-être. Un instrument, on ne connaît pas nécessairement, donc. C'est parce qu'il est octor, l'auteur, c'est tout ce qu'on a vu, instrument, quasi-cause, propre. Ça, la chose très très mystérieuse. Vous n'êtes plus mes serviteurs, mais vous êtes mes amis. Et alors, c'est souvent le nom vrai du Christ. Il est l'instrument de la grâce, et en même temps, il est tête. Et bon, c'est tout le temps ce qu'on voit, c'est ça qui est très, très délicat, et qui est très important, je crois, à saisir, pour bien saisir le rôle de la nature humaine dans le mystère d'incarnation. Saint Thomas ne diminue en rien le point de vue de la nature humaine. Il montre au contraire cette nature humaine est dans un état de perfection. Pour que le Christ puisse accomplir pleinement l'œuvre qu'il est mort. C'est très très beau pour nous aussi, hein, point de vue spiritualité. Hein. Que Jésus, parce qu'on pourrait dire, c'est toujours la même chose, pourquoi accumuler la connaissance divine pour pouvoir accomplir pleinement ce que Jésus nous demande de faire. À la pauvre, il y a la moi je suis un instrument que tu veux. Puis je suis un imbécile que Dieu te verra. Dieu demande qu'il y ait la connaissance pour qu'on puisse être un instrument parfait. Vous n'êtes plus mes serviteurs, mais mes amis. Article 3. Le Christ a-t-il eu la science infuse ? Alors maintenant, on situe, c'est très beau de situer ça, hein, les différents degrés de connaissance. Hein. C'est ça qu'il faut voir. Hein. Il est tout de suite dans l'esprit, c'est pour une des degrés de connaissance. Premier degré de connaissance, Dieu. Noesis, noeseos. Hein. Dieu se connaît lui-même. Il se connaît lui-même immédiatement, sans intermédiaire. Deuxième degré de connaissance, la vision béatifique. Troisième degré de connaissance, la science infuse. Quatrième degré de connaissance. Hein. Nous sommes là. Hein. Notre pauvre philosophie. Elle n'est pas... Elle est à la cuisine, vous voyez, c'est une vraie connaissance. Puis alors on monte, dans un fût, la vision béatifique. Et alors la foi permet d'anticiper la connaissance de Dieu par la vision béatifique. Je suis fait pour ça. Capacité. Alors, la science infuse. Voir comment saint Thomas va fonder la nécessité de la science infuse. Hein, c'est ça qu'il faut voir. Il est dit dans l'Épître aux Colossiens que le Christ possède tous les trésors cachés de la sagesse et de la science. Tous les trésors cachés de la sagesse et de la science. Ainsi que nous l'avons déjà remarqué, il convenait que la nature humaine, assumée par le Verbe, ne fût pas imparfaite. Vous voyez, là, saint Thomas reprend, et c'est très curieux comme raisonnement, hein. L'article précédent, c'était la finalité, et ici, c'est le point de vue de la perfection de la nature humaine. Ainsi que nous l'avons déjà remarqué, il convenait que la nature humaine assumée par le Verbe ne fût pas imparfaite. Or, tout ce qui est en puissance est imparfait, s'il n'est réduit à l'acte. Par ailleurs, l'intellect possible de l'homme est en puissance à